Eh bien, je vous donne rendez-vous le mercredi de 20h à 22h aux quatre coins du rock. René Boudreau, je vous y attends.
Coupure budgétaire, mise à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle tous les vendredis à 11h sur les ondes de CKIA FM.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 3 mai 2024. Le réseau de transport de la capitale a dévoilé sa nouvelle grille tarifaire qui entrera en vigueur le 1er juillet prochain. Pour la prochaine année, la hausse moyenne des tarifs sera de 3 % une hausse que le RTC dit raisonnable, dans le but de demeurer attractif et de fidéliser la clientèle qui est presque revenue à la même fréquentation qu'avant la pandémie. De son côté, la Ville de Québec annonce la bonification du programme Équimobilité. Les personnes admissibles sur la base de leurs revenus ainsi que les usagers du service de transport adapté de la capitale pourront se procurer un laissez-passer mensuel du RTC ou du STAC au coût de 50 $ et des billets de passage au coût de 2 $ à compter du 1er juillet prochain. La chef de Transition Québec, Jackie Smith, demande au maire Marchand d'augmenter la taxe sur l'immatriculation afin de doubler le budget du RTC. Elle soutient que la Ville de Québec devrait imposer une taxe de 1167 $ sur l'immatriculation, soit le coût annuel pour la passe mensuelle qui sera proposée par le RTC cette année. Madame Smith a par ailleurs démissionné du conseil d'administration du RTC. Ce dimanche 5 mai, la collecte verte vous donnera l'occasion de récupérer gratuitement le matériel désuet électronique, informatique ou électrique de 10h à 16h au siège social de la Caisse des Jardins des Rivières. Tout ce qui fonctionne avec une pile ou qui se branche sera trié méticuleusement et recyclé afin de réutiliser les matières premières. Le chapiteau est ouvert à tous, citoyens, citoyennes ou entreprises, dans le stationnement du siège social de la Caisse au 2287 Avenue Chauveau, beau temps, mauvais temps. La Maison des Jésuites de Sillery présente Retomada da Terra, une exposition témoignant de la lutte des Guaranis pour la reconquête de leurs terres ancestrales. Signée par la commissaire Véronique Isabelle, cette exposition dévoile le travail engagé du photographe documentaire Renaud Philippe en collaboration avec la cinéaste et anthropologue brésilienne Carol Mira. Gratuite pour tous, l'exposition est présentée en ce moment du jeudi au dimanche de 13h à 17h au 2320 Chemin du Foulon. La clinique communautaire SPOT annonce la fin des soins vétérinaires. La clinique offrait des soins de base une fois par mois aux animaux des personnes de la rue, aux utilisateurs de la clinique ou à des personnes référées par des organismes qui les aident. La clinique invite les personnes qui utilisaient ce service pour leurs animaux de compagnie à appeler au 418-781-2668 poste 109 afin de trouver une alternative. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, bon vendredi à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Simplicité. Thank you.
Je vécus certaines de mes heures les plus plaisantes durant les longues averses d'orage du printemps et de l'automne qui me confinaient sous mon toit des matinées et des après-midi entières, bercées par les grondements du tonnerre et le clapotis des gouttes, lorsqu'un crépuscule prématuré annonçait une longue soirée durant laquelle les pensées auraient le temps de prendre racine et se développer. Lors de ces violentes averses du nord-est, qui soumettaient les maisons du village à telle épreuve que les jeunes filles se tenaient sur le seuil de leurs portes, armées de leurs seaux et de leurs serpillères, prêtes à intervenir pour empêcher le déluge de rentrer, je m'essayais derrière la porte qui constituait la seule entrée de ma petite maison et je me réjouissais intensément de la protection qu'elle m'offrait. Lors d'un très gros orage, la foudre frappa un grand pin rigide de l'autre côté de l'étang et creusant, du haut en bas, un sillon très net d'environ un pouce de profondeur et en une spirale parfaite, à la façon d'un ornement de bâton de marche. Passant de nouveau par là, il y a quelques jours, je fus saisi d'une sorte de terreur sacrée à la vue de cette marque plus voyante que jamais. La trace laissé par un éclair phénoménal et irrésistible, tombé du ciel inoffensif il y a 8 ans de cela. Les gens me disent souvent, « J'imagine que vous devez vous sentir seul là-bas et regretter la compagnie des hommes, surtout la nuit et les jours de pluie ou de neige. » Je suis tenté de leur répondre, « Cette planète que nous habitons n'est qu'un point dans l'espace. » À quelle distance l'un de l'autre pensez-vous que résident les deux habitants les plus éloignés de cette étoile que vous voyez là-haut et dont aucun de nos instruments ne saurait mesurer la taille véritable? Pourquoi devrais-je me sentir seul? Notre planète ne fait-elle pas partie de la Voie lactée? La question que vous me posez ne me semble pas être la plus pertinente des questions. Quel genre d'espace est donc l'espace qui sépare un homme de ses frères en l'affligeant de solitude? J'ai constaté qu'aucune animation des jambes ne saurait réellement rapprocher deux esprits l'un de l'autre. À côté de quoi désirons-nous le plus résider? Sûrement pas à côté de la foule, à côté de la gare, à côté de la poste, du bar, de la maison commune, de l'école, de l'épicerie, de Boston ou de New York. En ces lieux où s'amassent le plus grand nombre d'hommes, mais à côté de la source pérenne de toute vie, quel que soit le lieu exact où notre expérience nous informe qu'elle jaillit. Comme le saule pousse près de l'eau et lance vers elle ses racines, ce lieu pourra varier en fonction de chacun, mais c'est à cet endroit que le sage creuse son cellier.
C'est une grande joie de marcher avec vous, Henry. Je me sens empressée de vous dire ma confiance.
Je remplace monsieur si loin de son foyer.
Vous êtes l'éclat vivant de la providence.
J'aime veiller sur la maison, les enfants et les fleurs. Je serai toujours là, quoi qu'il arrive.
Supporte
les absences de l'âme pensive. Il faut écrire, laisser sa trace, écrire l'âme si vaste. Il faut écrire, choisir la vie, le murmure et le cri. Il faut écrire, laisser sa trace. Écrire l'âme si vaste, il faut écrire, choisir la vie.
Bienvenue en toute simplicité. Aujourd'hui, nous avons une invitée, Madame Rebecca Pétrin, qui est la directrice de l'organisme Au Secours, qui va nous parler de l'eau, la situation de l'eau dans le monde. J'avais rencontré Madame Pétrin au début du mois de mars à un événement des Amis de la Terre, une projection d'un documentaire qui, d'ailleurs, est disponible. Je vais en parler avec Mme Pétrin tantôt, qui est disponible, que vous pouvez regarder. C'est une série de documentaires sur l'eau. Et c'est vraiment intéressant. Donc, après ma petite revue de presse et mes annonces et une pause musicale, nous irons avec Mme Pétrin parler de l'eau. Dans les annonces, on a eu l'Assemblée générale des Amis de la Terre cette semaine. On avait une assez bonne, même très bonne présence pour une Assemblée générale. Beaucoup de gens se sont présentés et on a vu que les Amis de la Terre ont une programmation vraiment très intéressante là, qui s'en vient pour cette année. C'est un organisme qui est vraiment actif dans de nombreux dossiers. Je vous recommande d'aller voir le site Internet de l'organisme. Et aussi, il y a des activités là à la semaine. Alors, il y aura le 7 mai, la semaine prochaine, le mercredi 7 mai, une projection de film avec une discussion qui va suivre sur la décroissance. Mardi prochain, le 6 mai, pour ceux que ça intéresse, il faut s'inscrire. Il reste encore des places. On aura un café philo organisé par le comité Simplicité volontaire, café philosophique, à la librairie La Liberté à Sainte-Foy à 19h mardi prochain. Dans les choses aussi qui se sont déroulées cette semaine, évidemment, on a eu la conférence sur le plastique. On n'en a pas beaucoup entendu parler, un peu. C'est comme on dit, un work in progress. Il semblerait que les pays se sont entendus pour travailler sur un traité, mais la rédaction du traité en tant que tel, ça va aller probablement à la prochaine rencontre qui aura lieu cet automne. Dossier du plastique, on va peut-être en discuter avec Mme Pétrin, qui était un problème majeur. Il y a les changements climatiques, puis il y en a qui disent que le deuxième pire problème écologique de la planète actuellement, c'est celui qui est lié là, à la consommation gigantesque de plastique. Alors, c'est un dossier qui sera à suivre. Ma revue de presse, j'ai quelques articles que j'ai retenus dans le Devoir de cette semaine, mais quelques articles, on a parlé beaucoup de mobilité durable cette semaine, mercredi dernier. Un bon texte de François-William Croteau, « Mobilité durable, virage ou mirage ». Il dit, en scrutant le paysage à mobilité durable, on peut se questionner sur ce que signifie réellement investir dans les infrastructures routières, celles qui servent presque exclusivement au transport automobile. Cette interrogation est encore plus pertinente lorsqu'on prend conscience des conséquences environnementales de la combustion des énergies fossiles et de notre dépendance chronique à l'automobile. Sur le front de l'empreinte carbone, même une flotte de véhicules électriques ne saurait concurrencer l'efficience et la pérennité du transport collectif. Du côté de l'Ontario, l'engagement est net. Sur 10 ans, à partir de 2023, plus de 72 % des fonds consacrés aux infrastructures seront alloués au transport en commun. Pendant ce temps, au Québec, nous nous maintenons modestement autour de 30 %, moins que la moitié que l'Ontario, une proportion qui a même légèrement chuté dans le dernier plan québécois des infrastructures 2024-2034. Il faut maintenant espérer que nos aspirations à rattraper nos voisins ontariens deviendront aussi un leitmotiv en matière de mobilité durable. C'était dans le Devoir de mercredi, un texte de François-William Croteau. Un autre texte sur la mobilité durable dans le Devoir de mardi dernier, « Vivre sans auto avec deux enfants ». C'est un texte d'Alain McKenna. « Vivre sans auto à Montréal ou ailleurs au Québec, c'est faisable. Le problème, ce sont les deux enfants. » C'est la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a évalué ainsi l'état du transport de Montréal. Une famille de deux enfants qui désire vivre sans en voiture. « Oui, ça se fait », a-t-elle affirmé au moment d'annoncer une expansion du service d'autopartage. Madame Plante, plus tard, a sorti de son chapeau, ils ont parlé de la ligne rose. Ce qui est intéressant dans l'article aussi, c'est qu'il dit « Le premier et dernier kilomètre sont pourtant dans le transport urbain et même en banlieue la clé du succès de tout transport collectif. S'ils pouvaient se rendre de la maison ou au bureau jusqu'à la station d'autobus, de métro ou de train sans prendre de voiture, une portion non négligeable des voyageurs urbains préférerait se déplacer de cette façon. » On l'a pu un peu oublier, mais cette théorie du dernier kilomètre, le dernier mille, pour être exact, mobilisait les géants technologiques et pas seulement Uber avant que ne frappe la pandémie. Pour eux, c'était le premier domino pour améliorer la mobilité urbaine. Ça, c'est un texte intéressant dans le Devoir d'Alain McKenna de mardi dernier, page B5. Il y avait aussi l'autre dossier dont on parle ces jours-ci, c'est le dossier des caribous qui sont en train de disparaître, très menacés, espèces très menacées au Québec. Puis là, il y avait un article jeudi, dans le Devoir de jeudi, condamné à des décennies de captivité. Le Québec a tellement tardé à agir pour protéger les populations en déclin de caribous forestiers que certains d'entre elles sont aujourd'hui condamnés au mieux à des décennies de captivité, et ce seulement si le gouvernement met finalement en place des mesures ambitieuses de restauration de leur habitat forestier. Alors, vraiment, c'est un dossier qui... Le gouvernement veut gagner du temps dans ça. Puis d'ailleurs, il y a un autre article qui confirme ça. C'était dans le Devoir de mercredi. Pas de stratégie nationale pour la protection du caribou. Québec annonce une consultation et dit vouloir maintenir des activités industrielles dans les habitats de ces cervidés menacés. À défaut de la stratégie attendue depuis 5 ans qui doit freiner le déclin du caribou forestier, le gouvernement Legault annonce une consultation sur des mesures censées mieux protéger 3 des 13 populations qui vivent sur le territoire. Et Québec laisse la porte ouverte à la poursuite d'activités industrielles dans les habitats propices aux caribous, notamment en Gaspésie. Alors ça, c'est dans le Devoir de mercredi. Finalement, dans le Devoir d'aujourd'hui, M. Guilbeault nous parle des résultats de la politique de réduction des GES. Le titre de l'article, c'est « Guilbeault promet de faire la preuve d'une baisse des GES à temps pour les élections. Le bilan dévoilé jeudi par Ottawa sera le dernier à rapporter une hausse nette de ces gaz, dit-il. Le ministre montréalais Stephen Guilbeault promet que la démonstration sera faite l'an prochain de l'efficacité du plan libéral pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre du Canada. Il y en va de sa réélection, dit-il. Je pense que les Canadiens, Canadiennes, nous jugeront sévèrement s'ils ne voient pas le progrès en matière de lutte au changement climatique. Avec raison, dirais-je, laisse tomber le ministre de l'Environnement et du changement climatique du gouvernement Trudeau. Bravant la pluie fine, jeudi, Stephen Guilbeault est sorti de l'édifice abritant la Chambre des communes entre deux votes pour répondre aux questions du devoir. Son gouvernement venait tout juste de confirmer que, malgré le prix fédéral sur le carbone, les émissions du pays ont continué d'augmenter en 2022 par rapport à l'année précédente. Loin d'être une mauvaise nouvelle, la hausse constatée de 10 mégatonnes est plus faible que le rebond post-pandémique prévu. En fait, c'est que on dit que c'est normal là, qu'il y a eu une augmentation à cause de l'économie qui a repris, mais au net, maintenant que l'économie a repris, on émettrait moins d'émissions qu'avant la pandémie. Alors ça sera à suivre dans le prochain rapport du fédéral. Dernière petite chose pour ceux qui s'intéressent, le dernier Philosophie magazine est en kiosque. Le thème, c'est « Comment cultiver la bonne humeur ». Je n'ai pas eu le temps de le lire à fond. Je l'ai parcouru rapidement. J'ai trouvé quelques bons textes. On a une section aussi qui s'appelle « Un jour sans plainte » et on parle de Sénèque. Alors, Sénèque disait « Avec le début d'une journée est aussi important que les premières lignes d'un roman. Il ne faut pas se rater. Et pourtant, si nous plongeons d'emblée dans notre planning surchargé, nous gâchons un beau moment. Sénèque, dans la brièveté de la vie, nous engage à ne pas suivre la voie de ceux qui plongent dès le réveil dans l'affairement à vide. » Et un mécontentement grognon. Accueillir le jour, qu'il soit morne, voire carrément moche, permet de ne pas y projeter de désirs trop grandioses ou d'inquiétudes paralysantes. Sénèque propose d'ailleurs de concevoir toutes ces journées à l'instar d'une vie. La matinée est le moment de l'enfance, innocente et pleine de découvertes. De quoi donner envie de se lever. Alors, il y a des conseils comme ça de Sénèque, Marc Aurèle, Spinoza, Thoreau. Alors, c'est dans le nouveau magazine, Philosophie Magazine, qui vient d'entrer en kiosque. Dernière petite chose, le film que je vous recommande, un beau film sur la simplicité volontaire, Les Jours parfaits, ben il est encore à l'affiche au cinéma Cartier. Et là, ils vont le garder toute la semaine encore. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu ce film-là, je vous le recommande vraiment. Et petit rappel ou petit clin d'œil, je vous fais jouer la chanson thème du film, qui est la chanson de Lou Reed, Perfect Days, qui est le titre du film en anglais.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun.
just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to read just one. Just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow.
C'était Lou Reed, la pièce Perfect Days de l'album Transformer. Plus tôt dans l'émission, on avait eu Richard Séguin, Promenade sur les chemins de Walden. Alors, on va aller avec Mme Pétrin. Est-ce que vous êtes avec nous, Mme Pétrin?
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, ben voilà, on va parler de l'eau aujourd'hui avec vous, spécialiste de l'eau qui a fait d'ailleurs une très belle présentation là, aux Amis de la Terre là, au début du mois de mars. Et on va avoir trois blocs. On va parler, premier bloc, on va parler de la situation au Québec. Je savais pas, je vous avais écouté, je savais pas qu'au Québec, on avait aussi, malgré qu'on ait une abondance d'eau potable au Québec. On a des pénuries parce que c'est pas tout à fait ce qu'on pense de surabondance. Ensuite, le deuxième bloc, on va parler de l'eau dans le monde. Et le dernier bloc, on va parler qu'on va conclure avec des solutions, des pistes de solutions, essayer de finir sur une note positive. Alors, Mme Pétrin, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'eau au Québec?
Beaucoup de choses. On va tenter de juste passer par-dessus les grands points, en fait, peut-être pour que les auditeurs puissent connaître un peu la base. Donc, les statistiques qu'on utilise souvent pour parler de l'eau au Québec et au Canada, bien, on dit que le Canada est propriétaire de 20 % de la ressource en eau douce. Donc, déjà, il faut distinguer l'eau salée de l'eau douce. Les milieux océaniques, c'est une chose. Nous, on se concentre vraiment sur l'eau douce, donc celle qui est utilisable à la maison et qui est sur les continents. Donc, le Canada a 20 % de la ressource, puis le Québec, 3 % Donc, on peut dire, oh mon Dieu, avec toute cette eau-là, on n'en manquera jamais. Sauf que une des grandes problématiques qu'on a, autant au Canada qu'au Québec, c'est que la grande majorité de cette eau-là coule vers le nord, donc vers la baie du Son, vers la mer Arctique, vers le Labrador. Donc, on parle que de plus de 60 % de l'eau qui va vers le nord, tandis que 90 % de la population vit dans le sud. Donc là, on vient de se rendre compte qu'un des premiers critères quand on parle d'accessibilité à l'eau, bien, c'est la proximité. Donc, on peut avoir accès à de l'eau, mais si c'est à des kilomètres, ce n'est plus accessible. Première chose, donc, oui, c'est vrai qu'on a beaucoup d'eau, mais là où les centres urbains se développent, c'est pas la grande majorité de notre eau qui est là. Ensuite, une autre problématique, c'est qu'on est depuis toujours au Québec, on a eu le mythe, en fait, de l'abondance de l'eau. Donc, on a créé nos modes de vie, nos façons de faire, tout autour du fait qu'on ne manquera jamais d'eau. Ça, malheureusement, ben, ça ne nous a pas poussé à avoir une façon de faire pour réduire, en fait, l'empreinte qu'on a sur l'eau. Puis là, autant, on parle autant de consommation de quantité d'eau que de préservation de la qualité d'eau. Là, on vient d'entrer deux autres critères. Donc, quand on parle d'accès à l'eau, c'est en quantité suffisante pour nos besoins et d'une qualité aussi qui ne va pas compromettre notre santé. Donc, tout ça ensemble fait que, malheureusement, au Québec, on surconsomme l'eau. On est dans les plus gros consommateurs du monde. Donc, on est à environ 350 litres par jour par personne, alors que la moyenne canadienne est en bas de 300, donc on est dans les 200. Et la moyenne en Europe, dans les différents pays, on est plus dans l'ordre du 150-170 litres par jour par personne. Et puis, malheureusement, il y a encore beaucoup de sources de contamination, là, dans le déversement de produits toxiques, contaminants dans les eaux. On peut, entre autres, penser à l'agriculture. Donc, il y a des pesticides, des insecticides, matières fertilisantes. Il y a les sols aussi qui s'érodent dans nos eaux. On a encore beaucoup de municipalités aussi qui ne traitent pas suffisamment les eaux. Et on a encore, malheureusement, beaucoup de rejets industriels. Donc, tout ça mis ensemble fait que, malheureusement, la quantité d'eau qui est disponible pour la population est à la baisse parce que il y a des il y a tous ces facteurs-là qui viennent influencer. Les changements climatiques viennent complexifier le tout parce que le processus là, de renouvellement d'eau, donc la quantité d'eau qui se renouvelle année après année, est compromise. On a des périodes de sécheresse qui sont beaucoup plus longues, qui fait favoriser l'évaporation. Le cycle de l'eau aussi, des pluies, est beaucoup plus soudain. Donc, c'est des grosses pluies très fortes qui ne permettent pas à l'eau de rentrer en douceur dans le sol puis aller recharger l'eau souterraine. Donc, tout ça fait aussi réduire notre réserve d'eau. Ce qui fait que dans les dernières années, ben ponctuellement, pendant l'été, on a des municipalités qui font des développements, qui font des nouvelles activités, qui se rendent compte, oups, on commence à manquer d'eau. Ou on a des rivières comme Québec, pendant deux années de suite, a dû mettre un avis de réduction de consommation d'eau à ses citoyens parce que la rivière Saint-Charles était trop basse. Donc, on se rend compte un peu trop dernière minute que, oups, là où on a l'habitude d'épuiser beaucoup d'eau, mais il y en a moins. Donc, on n'est pas habitué. Les villes, les citoyens, les industries au Québec n'ont pas l'habitude de devoir réduire leur consommation d'eau. Là, c'est difficile de faire des changements parce que c'est toutes des nouveautés auxquelles on fait face là maintenant au Québec. Qu'est-ce qu'on fait, nous, au secours, justement, par rapport à ça? Bien, on travaille beaucoup avec les experts, donc les chercheurs, les gens des municipalités, les citoyens qui observent, les peuples autochtones qui sont les premiers observateurs sur le territoire, qui voient beaucoup de changements, et les gouvernements, donc municipaux, provinciaux, fédéraux, à trouver des solutions, comment réagir rapidement quand il y a une pénurie d'eau, qu'est-ce qu'on peut faire aussi en amont pour être prêt à une pénurie d'eau, ou bien même encore plus en amont, comment prévenir les pénuries d'eau ou les cas de contamination. Donc ça, c'est tous les enjeux, en fait, qu'on a dans le futur à aborder. Et une chose qui est très importante, c'est l'humain et les écosystèmes. Donc tout ce qui est le vivant, comment est-ce qu'on conserve une proportion de l'eau en priorité pour le maintien des écosystèmes et ensuite pour l'approvisionnement des villes, des humains, avant tous les autres usages. Donc ça, c'est un défi que le Québec n'a pas eu dans le passé, c'est prioriser. Donc qui est-ce qui a le droit d'utiliser de l'eau en premier, puis qui est-ce qui devrait serrer sa ceinture un peu plus pour en permettre plus aux autres. On n'a jamais eu à faire ça dans le passé parce qu'on a toujours eu suffisamment d'eau. Maintenant, avec l'arrivée des cas plus fréquents de pénurie d'eau, ben, il y a des municipalités, il y a des MRC qui doivent conjuguer avec ces défis-là. C'est pas toutes les régions administratives au Québec qui ont des problématiques d'eau. Beaucoup dans le sud du Québec, là où justement il y a beaucoup moins de milieux humides, de réseaux hydriques, beaucoup plus d'agriculture, puis évidemment que l'impact des changements climatiques est plus fort. Donc, entre autres, la Montérégie, l'Estrie, ce sont des régions là qui sont le centre du Québec également, qui sont plus impactées avec des cas de pénurie d'eau.
D'ailleurs, ça m'avait frappé,
Je pensais pas que ça se pouvait, mais il y a des villages, ou en tout cas, il y a, dans le documentaire qu'on avait vu, carrément un village qui n'ont pas d'eau potable du tout. Là, la nappe phréatique s'est complètement asséchée, puis toute leur eau est importée par citerne. Les gens doivent se faire approvisionner au complet par citerne. Puis il y a une autre problématique aussi dont on a parlé ensemble, c'était la commercialisation de l'eau aussi. Là. Ça va devenir une denrée de plus en plus rare. Puis il y a des entreprises qui veulent profiter de ça pour la rendre commercialisée.
C'est exact. Le cas de la ville que vous citez dans le reportage, c'est la course à l'or bleu d'ailleurs. C'est le cas de Clarenceville. Donc, des grosses villes comme Québec, Montréal, Laval, qui ont des systèmes d'infrastructures d'eau, vont être capables plus facilement de répondre aux enjeux. C'est certain que ça va coûter plus cher aux citoyens. Malheureusement, plus l'eau est contaminée, plus l'eau est rare, plus il faut réduire. C'est les citoyens qui vont malheureusement payer ça dans leurs taxes pour les infrastructures. Le cas de Clarenceville était très vulnérable parce qu'ils n'avaient pas d'infrastructure de traitement d'eau potable. Donc, malheureusement, l'eau qui a été contaminée, ça impacte vraiment beaucoup la vie des gens qui ont soit des puits isolés ou soit une municipalité en fait qui n'offre pas d'aqueduc. Ça demande des investissements majeurs pour des petites villes. Donc effectivement, c'est un cas cité au Québec. Puis pour les cas de commercialisation d'eau, c'est un nouveau défi qu'on a aussi, c'est que plus l'eau est en demande un peu partout, plus il y a des entreprises privées, plus il y a des intérêts capitaux en fait à vouloir utiliser l'eau. L'eau embouteillée, l'eau pour des produits de fabrication, de l'eau transformée. Donc, nous, on attire des commerces qui ont besoin d'eau dans leur transformation, qui viennent s'établir partout. Puis, comme on n'avait jamais eu des grands besoins, en fait, de bien connaître notre eau, on a une mauvaise connaissance des quantités d'eau disponibles, des taux de renouvellement. Donc, parfois, on donne des autorisations. Le gouvernement est obligé de donner des autorisations de prélèvement d'eau à ces entreprises-là, sans trop connaître les conséquences que ça va avoir. Et là, on a des cas où, comme à Saint-Élie-de-Caxton, un très gros embouteilleur d'eau embouteillée, qui puise beaucoup d'eau dans une nappe phréatique, la municipalité à côté, elle craint, parce que si jamais, du jour au lendemain, sa nappe phréatique est mise à sec, c'est les communautés locales qui vont vivre avec cette pénurie-là. L'entreprise va fermer, elle n'aura qu'à se déplacer, à aller ailleurs. Mais les communautés locales, eux, vont vivre de cette pénurie-là. Donc, même si on a de l'eau à l'échelle du Québec, pour une communauté locale qui doit se faire approvisionner par camion-citerne, c'est pas facile, c'est des gros enjeux, ça coûte cher, c'est pas pratique. C'est un gros stress, en fait, pour la population de se dire qu'en fait, ils n'ont plus un accès libre là, à l'eau comme ils l'avaient avant.
Bien, parlant de Saint-Élie-Caxton, justement, on va prendre une petite pause musicale avec Fred Pellerin. Puis, on revient après ça pour parler de la situation de l'eau dans le monde.
Un jour dans un village, quelqu'un s'est mis à vendre du pain. On venait de sauver de l'ouvrage, tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. Puis quelque temps après, la farine livrée à la ville, et puis vendue à la livre, tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. Le blé porté sur les marchés du monde, le prix qui monte sur le dos de la demande. Ils ont breveté les semences, on sait plus par quelle botte s'y prendre pour manger. Plus tard, suivant la ligne, on a mis l'eau dans les bouteilles, puis les rivières dans les turbines. Tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. On bouche les trous avec des clous, l'argent du pain, l'argent du beurre, puis la chèvre et puis le chou, puis tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. Le bénéfice a mis sa main dedans le doute, la terre qui tourne peut même plus joindre les deux bouts. À 4%, on te remercie, puis pour le reste, il y a vas-y, faut payer. Thank you. flambée du bris de l'indécence. Si tu veux être, faut que tu dépenses la bourse mouline sur la confiance. Tout ce qu'on trouve encore à dire, c'est combien? Un petit peu moins pour un petit peu plus cher. Au profit de notre laisser-faire, attendre jeudi pour le nécessaire. Tout ce qu'on trouve encore à dire, c'est combien? À la santé de la croissance, de la croissance. On laisse dormir l'amour dans les petites avances. L'incalculable a rendu l'homme, mais le silence, notre silence, puis la fin de notre silence, c'est combien? C'est combien?
Alors, c'était « C'est combien » de Fred Pellerin. Alors, on revient avec Mme Pétrin de Au Secours. On est rendu à notre deuxième bloc. On avait dit qu'on aborderait la situation de l'eau plus largement, de la situation dans le monde.
Oui, donc la situation dans le monde, c'est malheureusement pas très joyeux. Donc, on parle d'une crise mondiale de l'eau. Les dernières statistiques des Nations Unies, en fait, sur l'accès à l'eau, on dit que c'est une personne sur quatre qui n'a pas un accès sécuritaire à l'eau, donc qui vit des périodes de pénurie d'eau au moins une fois par année. Et donc, quand on parle de pénurie d'eau, c'est un mois. Donc, pendant un mois, 25 % de la population de la planète n'a pas d'eau, ou très peu. Donc, et quand on parle de services sanitaires, parce que quand on parle du droit à l'eau, ça vient toujours avec les services sanitaires qui sont indispensables, entre autres, pour prévenir des cas de pénurie d'eau. Donc, un lieu, en fait, pour avoir tous ces services sanitaires et se nettoyer. Il y a une personne sur deux sur la planète qui n'a pas accès à ces services-là. Et pourtant, le droit humain à l'eau et au service d'assainissement, c'est un droit qui a été adopté par les Nations Unies en 2010. Donc, ça fait déjà 14 ans que ça a été reconnu comme étant un droit humain. Et ce qui est décrié, en fait, dans les différents rapports, c'est que malgré le fait que les gouvernements ont adopté ce droit-là, il n'y a pas de mesures vraiment concrètes qui ont été déployées dans les différents États pour faire appliquer ce droit-là. Donc, la situation ne s'améliore pas. Et avec les cas de surconsommation d'eau, d'accaparement par les entreprises privées, la privatisation, la commercialisation, on retire en plus de plus en plus des accès à des populations locales. Si on se demande en fait où va l'eau sur la planète, il y a aussi des données qui sont très intéressantes. Ce qui est démontré, c'est que 78 % de l'eau qui est utilisée sur la planète, c'est pour l'agriculture. Donc, on a un modèle d'agriculture industrielle qui favorise l'agriculture à grande échelle dans des zones qui sont souvent très ensoleillées, mais assez désertiques. Donc, on peut penser à la Californie, le Mexique, le Chili, l'Australie, l'Afrique du Nord qui font beaucoup d'agriculture, les pays d'Asie centrale également. Toutes ces régions-là dépendent de l'irrigation pour faire leur agriculture. Donc, 78 %. On a un autre 8 % qui est pour la production d'énergie. Donc, on peut penser à des centrales thermiques, nucléaires, donc qui ont besoin de beaucoup d'eau pour faire des refroidissements ou même pour les procédés. Et on a un 20 % qui est pour l'industrie. Donc, il reste un très faible pourcentage, en fait, qui est au résidentiel. Évidemment, c'est des données qui sont mondiales. Donc, si on prenait les données canadiennes, québécoises, le volet résidentiel serait beaucoup plus élevé que le volet agriculture parce qu'on irrigue beaucoup moins nos terres au Québec que le font ailleurs dans le monde. Mais ça reste qu'on peut voir que l'agriculture, qui est la grande majorité des produits que nous, on consomme dans notre épicerie, est un grand consommateur d'eau. Et d'où provient l'eau, en fait? On a souvent dans l'imaginaire les lacs, les rivières. Pourtant, tout ce qui est eau de surface et atmosphérique, ça représente juste 0,4 % de l'eau. Donc, c'est très faible, c'est moins de 1 %. Les eaux souterraines, c'est 30 % de l'eau. Et la grande majorité de l'eau, c'est donc les glaciers, donc avec 69 % de l'eau mondiale. Donc, on peut voir, en fait, où se situent les grandes réserves d'eau douce au monde. On peut penser à la cordillère des Andes, on peut penser à la chaîne de l'Himalaya. Si on prend le cas de l'Himalaya, en fait, la réserve d'eau douce, c'est les glaciers qui sont dans les montagnes, qui abreuvent les rivières, qui descendent tout qui irriguent l'ensemble de l'Asie, l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale, la Chine, qui sont les principales régions, en fait, de production de biens de consommation et d'agriculture. Donc, c'est très intéressant de voir que, malheureusement, les changements climatiques vont accélérer la fonte de ces glaciers-là, qui est la réserve la plus importante d'eau là pour les populations. Donc, c'est un effet, en fait, de plus là, que les changements climatiques risquent de causer comme désastre pour la crise mondiale de l'eau. C'est très intéressant de voir aussi qu'au Québec, on a un impact direct aussi sur l'accès à l'eau pour les communautés ailleurs, parce que directement dans les biens de consommation que nous, on achète ici, ben on s'accapare une partie de l'eau d'ailleurs. Donc, si je peux prendre le cas du Chili, que c'est un exemple qu'on utilise beaucoup chez Au Secours, le Chili vit des pénuries d'eau depuis près de 12 ans. Donc, à chaque été, ils vivent un rationnement de l'eau par habitant, carrément. Donc, ils ont droit à une certaine quantité d'eau par jour, par personne. Or, dans ce pays-là, il y a plus de 90 % de l'eau qui est utilisée, que c'est pour l'agriculture industrielle d'exportation. Donc, on peut s'imaginer les raisins qu'on achète, les pommes qu'on achète qui proviennent de Chili, les bleuets. Donc, ces produits-là ont été créés grâce à de l'industrie qui s'est installée là-bas, qui s'est accaparée la ressource en eau. Et ensuite, on importe, nous, ces produits-là. Donc, on a un impact majeur, en fait, sur l'eau qui est disponible pour les communautés locales. Donc, il y a d'autres industries. On pourrait parler de l'industrie minière, les industries forestières aussi, qui ont des impacts majeurs là, sur le cycle de l'eau et les quantités d'eau disponibles pour les populations. Donc, on doit garder ça en tête, parce que même en étant au Québec, bien, on peut faire des choix sensés pour réduire justement l'impact là, des pénuries d'eau ailleurs, en favorisant les produits de consommation d'ici, de chez nous, ou en consommant le plus possible des produits aussi qui sont de saison. Donc, de ne pas privilégier l'agriculture de toute saison. Là.
Mais d'ailleurs, un point j'ai été frappé par ça, j'avais lu il y a quelques années, l'industrie du vêtement consomme beaucoup d'eau. Puis j'avais vu, il y a quelques années, on disait qu'un T-shirt là, de coton, là, c'est des milliers de litres d'eau que ça prend pour faire toutes les étapes, là, finalement, faire pousser le coton, puis le transformer. Alors, ça fait partie des choses que nous, on peut faire. On va peut-être en l'aborder tantôt dans le dernier bloc, là, réaliser que nos vêtements, il faut les étirer, puis réaliser que dans nos vêtements, dans nos T-shirts, il y a des milliers de litres d'eau qui ont été utilisés dans des endroits où peut-être qu'il y a des pénuries d'eau. Parce que nous, comme on disait tantôt, on est plus ou moins affectés par ça au Québec, parce qu'on a quand même beaucoup d'eau. Alors, si on pourra l'aborder tantôt, là.
Vous avez bien raison. On appelle cela l'empreinte hydrique. Donc, même si les produits que nous, on achète sont secs, on ne s'imagine pas avoir de l'eau là, dans un ordinateur, un crayon, une bobine d'aluminium, mais derrière tout ça, ça a utilisé de l'eau. Donc, ça a utilisé de l'eau pour le processus de fabrication, mais également, ça a rejeté des contaminants dans l'environnement. Puis quand on rejette des contaminants, bien, on s'accapare une partie d'eau pour diluer ces contaminants-là, les rendre moins toxiques. Donc, tout ça, c'est la consommation de l'eau qui est cachée derrière la production des biens. Vous avez bien raison, la réutilisation des produits, favoriser des produits qui viennent d'ici, étirer le plus longtemps, mais on pourra le voir dans la dernière section qui est les solutions. Je voudrais juste terminer avec, pour la section mondiale, avec le concept de sécurité hydrique. Donc, vous avez parlé de nouveautés qu'on entend de plus en plus parler. Le concept de sécurité hydrique va venir à être beaucoup plus discuté au Québec, parce que qu'on parle de l'Alberta, qu'on parle de la Californie, c'est des populations qui doivent maintenant vivre avec des gros enjeux de pénurie d'eau. Et on a des acteurs ici au Québec qui commencent à vouloir en fait exporter l'eau du Québec dans un souci de sécurité hydrique. Donc, comment ça se fait qu'on partage pas notre eau? Il y a des gens qui manquent leur eau. Et ben, en fait, c'est pas nouveau là comme idée. Là, à l'époque de Brian Mulroney, on parlait déjà là, d'un aqueduc là, à construire du nord du Québec, de l'Ontario, jusqu'au sud des États-Unis, justement, pour transférer l'eau. Mais ce qui est très important de garder en tête, c'est que si ces régions-là vivent des pénuries d'eau, c'est que l'eau a été accaparée pour des activités qui n'ont pas eu un rythme durable. Donc, on peut parler de l'Alberta, c'est entre autres l'extraction des hydrocarbures qui a demandé énormément d'eau, l'agriculture également, et que si on décide d'exporter l'eau du Québec vers ces régions-là, c'est juste pour continuer à maintenir en vie artificiellement ces activités-là. C'est pas une solution pour la sécurité hydrique de transférer de l'eau d'un bassin versant à un autre. D'ailleurs, les Nations Unies ont été très claires là-dessus. On ne doit pas déplacer de l'eau massivement d'un bassin versant à un autre. C'est les écosystèmes directement qui vont être impactés et les communautés locales. Et malheureusement, au Québec, là, ces derniers temps, on a entendu parler plusieurs personnes de ça. Et ça peut prendre des discours quand même intéressants. On peut parler de nationalisation de l'eau. On peut parler de commercialisation de l'eau. Dans tous les cas, ça demeure de retirer le statut en fait de ressource commune à notre eau, parce qu'au Québec, l'eau n'appartient à personne, elle est commune. Et dans le but en fait d'en faire une activité de vente lucrative pour l'État ou pour une entreprise privée, mais dans les deux cas, c'est pas une direction qu'on doit prendre, malheureusement. Ouais.
Là, on va prendre une dernière petite pause musicale, puis il va nous rester quelques minutes pour parler de solutions et conclure l'émission.
Nous sommes les oiseaux d'une île nouvelle. Tout est toujours à recommencer. Nous allons créer d'autres cris d'oiseaux. Tout est toujours à recommencer. Nous allons créer des fontaines et une eau propre et un ciel clair. Nous allons laver nos yeux de nos larmes aux chutes du fleuve à venir. Tout est toujours à recommencer. Nous allons escalader les désastres pour y planter la vie. Nous allons aller au sommet de cet Everest de peine, à force de courir, à force de pâlir, à force de nous cogner au mur de ce bas monde, nous déboucherons dans les plaines de la sagesse. Et moi, je te hisserai devant moi comme la proue d'un vaisseau en pleine mer démontée. Tout est toujours à recommencer. Sur ma Pompéi ensevelie, j'installerai un nouveau pays.
Alors, petite pause musicale avec Julos Bocan, qui va nous, ça va nous laisser environ 3-4 minutes pour conclure. C'était nous sommes les oiseaux d'une île nouvelle. Une espèce de poème de Julos Bocan. Alors, Madame Pétrin de l'organisme Au Secours, il vous reste 4 minutes pour conclure notre propos sur l'eau.
Mais en fait, moi, j'encourage tous les citoyens qui nous écoutent à déjà trouver des astuces pour réduire leur consommation d'eau. Il y a plusieurs programmes, conférences et autres disponibles sur Internet. Vous pouvez nous contacter aussi. On a plusieurs astuces pour vous. Première étape. Deuxième étape, évidemment, comme on le dit, l'approvisionnement local, manger de saison. Donc, l'alimentation est très lourde en eau cachée. Donc, c'est important de vraiment privilégier les produits du Québec et de saison. Donc, ça désire vraiment les période d'arrosage. Parlant d'arrosage, hein, le gazon, on le laisse jaune ou même on plante des plantes qui ne demandent pas d'arrosage. Il y a beaucoup de campagnes qui sont déployées par différentes organisations cet été pour favoriser la biodiversité, pour remplacer le gazon, mais déjà de ne pas l'arroser, garder l'eau pour des usages plus importants. Autre point, Au Secours est une organisation en fait qui fait beaucoup de revendications et on accompagne aussi les groupes citoyens à faire des représentations pour une saine gestion de l'eau auprès des municipalités, gouvernement provincial et fédéral. Donc, Si vous voulez nous soutenir, on est toujours plus fort quand on est nombreux. Donc, on vous invite en fait à venir visiter notre site Internet, à devenir membre et de vous informer aussi, de mettre votre nom sur l'infolettre. Parfois, on a des actions proposées aux membres, donc des activités publiques ou bien des courriels, des messages envoyés aux élus. Et j'invite aussi les citoyens à regarder dans leur région, leur municipalité, s'il existe déjà des regroupements citoyens pour faire des projets ou proposer des solutions aux élus sur une meilleure gestion environnementale, une meilleure gestion de l'eau. Si jamais vous n'avez pas de regroupement citoyen et vous seriez intéressant d'en créer un, je vous invite à me contacter. Contactez aussi le réseau Demain Québec, qui est aussi un réseau en fait de regroupement citoyen. Et à partir de là, une fois que les citoyens sont regroupés, on peut revendiquer une meilleure gestion de l'eau, peut-être même de devenir une communauté bleue. Donc, nous, c'est une certification, en fait, qu'on porte, une certification internationale. Mais chez Eau Secours, on en fait la promotion au Québec. Donc, vous pouvez venir visiter notre site Internet. On a beaucoup d'informations là-dessus. Et justement, dans la certification communauté bleue, une des choses qui est revendiquée, c'est la reconnaissance du droit humain à l'eau. Donc, comment est-ce que la municipalité va toujours s'assurer que ce sera les humains d'abord, et ensuite les autres activités industrielles et commerciales qu'on fera avec l'eau. Ça peut paraître anodin, mais c'est très difficile de mettre ça en place pour les gouvernements. C'est important de leur rappeler qu'ils sont d'abord des services publics et qu'ils doivent répondre aux besoins des citoyens avant les autres demandes. Et par le fait même, en rencontrant votre municipalité, on peut les questionner aussi. Où est-ce qu'on prend l'eau? Est-ce que notre source d'eau potable est contaminée? Comment est-ce que fonctionne notre usine de rejet d'eau usée aussi? Certaines municipalités ont beaucoup de difficultés avec la gestion des eaux usées. Donc, c'est bien de les questionner, de leur montrer en fait qu'on est intéressé, que c'est important d'investir dans nos infrastructures publiques pour maintenir cet accès-là à tous, donc de façon équitable. Donc, de vraiment aller questionner son conseil municipal. Et puis, si vous sentez que vous manquez d'outils, venez nous contacter. On a plusieurs informations. On a des guides aussi pour les citoyens qui veulent en faire davantage. Donc, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions aussi là-dessus. Donc, ce serait mes principales recommandations.
C'est d'ailleurs, merci. L'émission est terminée. Moi, je retiens aussi dans nos pratiques, il faut commencer à changer nos modes de vie, modifier nos modes de vie. Là, il y avait un article, j'en ai parlé la semaine dernière, d'éliminer les pelouses carrément. Là, que c'est, puis de remplacer ça par des plantes qui sont pérennes, des plantes qui peuvent aussi servir, parce que la pelouse, ça sert pas beaucoup à aux insectes pollinisateurs, etc., à la nature. Donc, et puis, commencer aussi à être conscient que l'eau, c'est une ressource précieuse, même si actuellement, on a l'impression de l'avoir en abondance au Québec. Il faut commencer à préserver la ressource, à faire attention à notre consommation. Puis évidemment, il y a le côté politique dont vous avez parlé. Puis ce serait une bonne pratique pour les gens qui nous écoutent de suivre Eau Secours, qui s'occupe d'un volet plus large là, de préservation de l'eau. Alors, je vous remercie beaucoup, Mme Pétrin, pour votre présence ce matin. Et peut-être à une prochaine entrevue, une autre fois.
Merci beaucoup. Merci de l'intérêt que vous avez porté à l'eau.
Bien, bienvenue. Bonne journée, bonne semaine, bonne fin de semaine à tous.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Monde musicaux. Venez à la rencontre d'une personnalité qui vous fera partager sa pratique artistique ou culturelle et découvrir la musique au cœur de son identité. Rendez-vous à Monde Musicaux avec Christine Borello tous les samedis à 18h sur les ondes de CKIA FM.
Québec Réveil, c'est l'émission matinale de CKIA et c'est moi, Philippe Arsenault, qui ai le bonheur de passer ce moment de la journée avec vous. Actualité locale, enjeux sociaux, culture, sport, politique, prenez le pouls de votre ville chaque matin en ma compagnie et celle de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Faites la connaissance de gens d'ici qui travaillent sur le terrain pour faire de Québec une ville plus juste et plus belle. Québec Réveil, du lundi au vendredi, dès 7h30.